Et je ne savais pas ce que je voulais faire. Et à chaque fois, le Seigneur conduit ces choses-là. Et Eden m'a dit, m'a proposé, bah, tiens, on pourrait aller en Italie. J'ai dit, ok, je pense que c'est une bonne chose. Et on est allé en Italie. Et vraiment, ce voyage de A à Z était vraiment conduit. C'était vraiment incroyable. Parce que j'étais à Rome plusieurs fois. Et là, c'était une façon de revoir tous les saints assez connus, notamment. Donc on est allé sur la tombe de Saint-Pierre et aussi celle de Saint-Paul. Vous connaissez Rome, non? Pas vous? Vous connaissez Saint-Paul-les-Murs aussi? Il y a Saint-Paul-les-Murs. Et puis nous n'avions pas de... On devait aller à San Giovanni Rotondo qui se trouve de l'autre côté dans les Pouilles, en fait, en Italie. On n'avait pas de... On n'avait pas prévu de transport, rien. Et on regarde sur un Blablacar, une des Blablacar, en Italie, et 24 heures avant, on trouve quelqu'un qui part au moment où on veut, exactement jusqu'à San Giovanni Rotondo. Pourquoi je dis ça? Parce que San Giovanni Rotondo, c'est un bled. C'est comme si vous alliez, en Corrèze, ou je sais pas où. C'est pas des grandes voies où il y a beaucoup de monde. Et là, on avait cette chance, cette personne qui partait à l'heure où on voulait, quand on voulait, le lendemain, pour aller. J'ai dit, tiens, ça c'est notre homme. Et donc, on a été conduit jusque là-bas. Est-ce que vous qui connaît Padre Pio ici, ou pas? Tu connais? Vous connaissez? Vous avez déjà été?
Non.
Jamais? Alors, je crois que je vais vous inviter l'année prochaine. Je pense que je vais refaire, on va refaire ce... Enfin, je vais pas proposer ce voyage qu'on a fait, ce pèlerinage. Parce que... c'est édifiant d'y aller pour plusieurs raisons. C'est que Padre Pio, vous allez voir, c'est un homme dont le corps n'a pas été décomposé et son corps est exposé dans une châsse en verre. Et quelque part, c'est un miracle et vous le voyez, il est mort en 68. Donc ça va faire quasiment plus de 40 ans. Ouais, 45 ans. Et ils ont construit un... Donc c'est un tout petit village sur un flanc de montagne, et vous avez une vue sur la mer au loin et sur la plaine. C'est très très beau et ça porte à la prière. Et c'est aussi un endroit extraordinaire pour se ressourcer, prier, connaître ce que c'est que le pardon des péchés aussi. Parce que sa vocation, c'était vraiment de recevoir les gens en confession et de leur pardonner au nom de Christ. Et vraiment, il le vivait dans sa chair parce qu'il souffrait à travers les principes, ce qu'il vivait. C'est une personne passionnante, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. On est revenu et après, je voulais, comme j'avais 3 semaines de vacances, je voulais absolument aller, c'était l'occasion d'aller visiter le Sieur à Turin. Et le Sieur à Turin, qui a déjà été le voir? Personne? Si, toi. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Alors, c'est un morceau de tissu, un linceul, qui a imprimé un homme. Alors, je l'ai dit spécifiquement un homme parce que c'est le terme employé aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de vérité sur le fait que ce soit le Christ qui a été mis dans ce linceul. À la crucifixion, donc, à la fin de la crucifixion, on prend Jésus et on le met dans un caveau, juste à côté de la croix, et Joseph d'Arimathie, qui est un homme riche du Saint-Andréen, achète un linge, un linceul, comme il est fait de coutume à l'époque, on enveloppe le mort et on le met... Dans un tombeau. Et c'est ce qui a été fait, et ce morceau de tissu aurait traversé les âges. Alors on n'a aucun historique de la crucifixion, de la résurrection jusqu'à 1400, où il réapparaît en France à Liray. Vous verrez, c'est en Champagne, et c'est un comment dire, chevalier assez célèbre. Moi, je ne le connaissais pas, mais je l'ai découvert. Je vais vous donner son nom, si je le retrouve. Son nom m'échappe, mais ça va plus revenir. C'est Godefroy de... Non, c'est pas Godefroy de Bouillon. je sais plus, ça va revenir. Donc c'est un morceau de tissu qui fait 4 mètres 40 de long sur 1 mètre 13. Et donc, si vous voulez, c'est un tissu qui est droit comme ça et qu'on referme sur le mort et ensuite on le remet. Et ce tissu est imprimé. A imprimé le corps et aussi toutes les marques qu'il y avait sur ce corps, et elles sont restées visibles pendant jusqu'à aujourd'hui, en fait, pendant 2000 ans. On peut voir toutes les impressions, les coups, les blessures que cet homme a subies. La particularité de cet homme, c'est que tout ce qui est écrit dans les évangiles correspond quasiment à 100% à ce que vous pouvez voir sur ce morceau de tissu. Alors, je vous montre comment on le voit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire le tour. Alors, là vous voyez, il y a le visage et le corps, et en fait le linge était comme ça, retourné dessus. Donc ça c'est son dos. Et ça, c'est sa face. Donc, je passe rapidement. Voilà. Je pourrais vous le donner après pour regarder le détail. Je ne sais pas vraiment. Alors aujourd'hui, pourquoi je parle du sœur? Parce que je trouve qu'on est revenu à une époque où la persécution a toujours existé, mais elle est peut-être encore plus forte et visible aujourd'hui. Donc dans l'histoire, ce que vous voyez ici, les trous ici, ont été formés par un incendie, parce que donc ce linceul a été en possession par un chanoine dans une église à Livet, qui est en Champagne, en France. Il appartenait à une famille de nobles. Et cette famille de nobles, la descendance, une jeune fille, a redonné ce linceul au prince de Savoie. Et donc il a été transféré de Livet à Chambéry. Et à Chambéry, la famille royale de Savoie a fait construire une chapelle spécialement pour accueillir ce linceul. Et c'est seulement à partir de cette date-là qu'il va y avoir ce qu'on appelle une ostension. Donc ce qu'on dit une ostension, ça veut dire que c'est visible avec ses yeux devant tout le monde, parce qu'en fait on ne le sort pas, parce qu'il est sensible à la lumière et qu'il se détériore à la lumière. Et en 1500, si je ne me trompe pas, c'est 1507, quelque chose comme ça, il y a eu un feu dans la chapelle, et le feu était tellement intense que ce linceul était renfermé dans un coffret avec des clous en acier, enfin en plomb en acier, et la chaleur a fait fondre, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on pense, a fait fondre le métal et a traversé le linceul. C'est pour ça qu'il y a des traces de brûlure, et on peut voir ici, il y a des traces d'eau, parce qu'on l'a arrosé pour empêcher qu'il brûle. Et ils ont quand même sauvé, ils l'ont quand même sauvé. Et du coup, ils ont rapatrié avec il y a toute l'histoire de Savoie, c'est-à-dire que les rois, la famille royale de Savoie est allée s'installer à Turin. Et il a toujours été, depuis les années, depuis le 15e siècle, il a toujours été à Turin. Et il y a des ostensions, c'est-à-dire on le montre. Ça, c'est en fonction du pape qui décide quand est-ce qu'on peut. Alors souvent, ça a des grandes occasions, des occasions particulières. La dernière ostension, c'était avec Benoît XVI en 2010, je crois. Donc c'était il y a 5 ans. Et si un jour vous avez l'occasion, donc là c'était du 30 mars jusqu'au 22 juin. Le pape va aller faire le voir le 21 juin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, personne ne peut prouver que c'est le Christ. En revanche, si un jour vous avez l'occasion d'étudier, de regarder un petit peu, il y a vraiment toutes les marques de la crucifixion. Et il y a plusieurs choses, même si elles comment dire, qui sont quand même troublantes et flagrantes. Je vais commencer par celle-ci, qui est ici, nombreuses coulées de sang sur le front, qui sont dues à une couronne d'épines. Et même la couronne d'épines dans la flagellation, dans la crucifixion romaine, ce n'était pas quelque chose de courant. C'était vraiment, on ne mettait pas une couronne d'épines sur la tête des gens, c'était très spécifique. Il y a une deuxième chose, c'est qu'au niveau scientifique, donc depuis les années 50, comme on a beaucoup progressé, on a eu de cesse de faire des tests, des vérifications, et on a trouvé des pollens dans le tissu qui sont des pollens de plantes qui n'existent qu'en Palestine. Donc, ça encore, ça corrobore le fait que ça puisse être vrai. Ici, ce qu'on voit, une trace de sang, c'est les clous percés. Et ici aussi, au pied, on voit une grande trace de sang parce que ils disent que les pieds de Jésus ont été croisés et transpercés avec un seul clou. C'est pour ça qu'on voit que sur un seul pied, on voit qu'il y a vraiment une grande trace de sang, et l'autre, on voit du sang qu'au talon, ici derrière. Je peux vous donner deux détails. Ici, le dos est marqué par des centaines de traces de sang qui sont été attribuées et étudiées comme si des coups de fouet avec des plombs avaient été donnés dans son dos. On sait ce que Jésus a subi. Tout le cou ici aussi au dos est rempli de sang. Il y coulait sang par les épines. Et ici aussi, ce qu'on peut constater, c'est que ses jambes n'ont pas été brisées. Parce que, en général, aussi pour accélérer la mort des suppliciés, on leur brisait les jambes. Parce qu'en fait, juste un petit détail terrible, quand vous êtes à la crucifixion, vous mourrez par étouffement, en fait. C'est le fait d'être en croix comme ça. C'est le poids du corps qui étouffe et vous mourrez asphyxié. Mais c'est une mort lente. Hein. Quoi d'autre? Le plus intéressant peut-être, c'est ça. Et donc, il y a la blessure du flanc droit qui fait 4,5 cm de large et 1,15 cm d'épaisseur, on peut le mesurer. Et ce qui correspond à une lance rentrée dans le flanc droit de cette personne et qui a transpercé le cœur, on ne voit pas, mais en tout cas ils ont pu l'incel a marqué la trace de la lance dans le fond. Donc on sait qu'en lisant les évangiles la lance est transpercée. Autre chose aussi souvent qui a fait débat, c'est scientifiquement c'est longtemps penché sur le fait que à la crucifixion on clouait les gens. Et on disait, ben non, est-ce que le clou de Jésus il est dans la paume ou sur le clou? Si un supplicié avait un clou dans la main, en fait le poids du corps arrache la main. Donc c'était assez connu, les bourreaux de l'époque, c'est que le meilleur endroit pour mettre un clou et supporter le poids, c'est ici. Et ça tient, et du coup tout le poids du corps peut tenir cloué. C'est un peu macabre, hein, mais je prends des détails. Et donc ici on voit qu'au niveau du poignet, Il y a eu comment dire, une trace de sang ici qui est assez visible, qui montre bien l'emplacement du du clou. Dans les années 50, je crois, la NASA s'y est intéressée, ils ont fait des recherches, et aujourd'hui, il est mis dans un coffre de verre armé avec un gaz inerte pour pas qu'il se détériore, et on peut le voir, il est sensible à la lumière, c'est pour ça que souvent, quand on va le voir, c'est dans le noir total, et il y a une lumière rétroprojectée qui montre ce que... Vous voyez vraiment ça, hein. C'est ça, c'est ce que vous voyez. Mais en 4 mètres sur 4 mètres sur 1,15 m, quoi. Alors je pourrais vous en parler longtemps encore, mais et vous dire beaucoup de choses. Donc tous les papes, du moins ceux que l'on connaît de la génération, et de Jean-Paul II, Benoît XVI et pape François sont allés le voir. Évidemment, l'Église rappelle que c'est pas, comment dire, c'est pas un objet de, comme il n'y a pas de preuve, enfin, pour le monde entre guillemets, c'est une relique de dévotion, mais ce n'est pas ça qui donne la foi. En revanche, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, j'ai continué après à voyager pendant ce mois et je suis allé à Istanbul en Turquie, qui s'appelait avant Constantinople et qui s'appelait encore avant Byzance. Et c'est l'histoire du christianisme, et c'est intéressant parce que beaucoup de pièces chrétiennes étaient détenues à Constantinople, parce qu'en 350, quand Constantin a décidé de déplacer le pouvoir de Rome à Byzance, qui est devenu Constantinople, les gens ont fait des cadeaux extraordinaires, et au niveau de la foi chrétienne, ils ont amassé aussi un nombre de reliques assez incroyables, comme donc le suaire. Enfin, ça, on le pense, on n'a pas de preuve. Parce qu'en fait, les croisés ont mis à sac Constantinople en 1200. Et en 1200, en mettant à sac, ils auraient, se seraient emparés d'un tas de reliques et de pièces de ce type-là. Mais aussi, vous avez à Argenteuil, vous avez la tunique du Christ. Et dernière révélation en date que j'ai eue il y a une semaine, parce que ça m'a vraiment frappé, c'est que la tête de Jean le Baptiste, vous savez, on lui a tranché la tête, elle se trouve dans la cathédrale d'Amiens, et rapportée aussi en 1200 par les croisés. Alors c'est bien sûr, c'est toujours, comment dire, c'est pas avéré, mais c'est dit. Et je me dis que la France est vraiment bénie une quantité de choses de martyrs. Je ne sais pas si c'est un bon signe. Mais en tout cas, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Turin, allez-y. Alors là, c'était quand même une période exceptionnelle. Ça faisait 5 ans. La prochaine fois, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, bien sûr. Mais ça vaut le coup d'aller le voir. C'est très bien organisé. C'est très émouvant. Et aussi, ça fait vraiment penser à ce que le Christ a payé pour nous, et aussi tout le sens que cela donne aux martyrs et à la souffrance aussi, parce que ce sont nos péchés qu'il a portés. Et ça, à chaque fois, parce que des crucifiés, il y en a eu énormément. Il n'y a pas eu Jésus qui a été crucifié, c'est une méthode romaine, mais la crucifixion de Jésus, le sang de Jésus, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et quelque part, ce linceul, il témoigne que ça traverse le temps. Que la crucifixion de Jésus, le sang de Jésus, la souffrance de Jésus, elle a toujours été donnée pour nous et toujours aujourd'hui. C'est toujours une vérité. Voilà.
Il y avait la question.
Pas trop scientifique, hein.
Moi, j'ai entendu Jean-Michel qu'en fait, il y a eu beaucoup de conversions et suite à les gens qui sont allés voir le sanctuaire et qui sont convertis, en fait.
Alors, ça me fait penser à autre chose, c'est que quand on y était avec Eden, on a eu une grâce en quelque sorte parce qu'on s'est planté d'entrée. Et du coup, on n'était pas dans la bonne file. Ça nous a mis en retard et tout était listé. On devait s'inscrire, il faut s'inscrire sur Internet et on a un horaire de passage. Et du coup, on arrive en retard, on demande à passer et la personne nous dit bah non, vous êtes une heure en retard, c'est pas possible. Alors je dis bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y avait une personne qui me disait oui et puis l'autre qui me disait non. C'est comme ça souvent dans les combats spirituels. Et c'est... Il y a un bon ange et il y a un mauvais ange. Et puis, nous on y va, et puis Eden insiste. Bon, je ne vais pas spécialement que insister. Il insiste, plus de fois que moi peut-être. Il insiste et dit non, mais il nous a dit oui, etc., etc. Il y avait un couple avant nous, même procédé, ils sont arrivés en retard, ils les jettent et ils s'en vont. Ils nous voient, ils nous disent non, c'est trop tard, une heure, je ne peux pas. Et puis Eden insiste. Il dit non. Monsieur là-bas, il nous a dit oui, on va y aller. Et puis il dit non, puis il s'occupe, il s'en va à partir. Et puis Eden, il dit viens avec moi, on y va. Et alors, t'as une file comme ça, et on rentre dans la file. Et puis le gardien qui était en face, il dit il y avait tout un groupe de 40 personnes avec des sœurs de custodines, tout en blanc, avec des gens en fauteuil roulant. Il dit oh, c'est votre groupe et tout. Puis tout le monde nous regarde non, eux, ils sont pas avec nous. Et puis là, il commence à parler en italien, etc. Et puis il dit, bon, c'est bon et tout. Puis il dit, ah, vous voyez, vous êtes avec nous et tout. Pourquoi ils ne voulaient pas nous laisser rentrer? C'est parce qu'en fait, ils avaient réservé tout l'après-midi, était dédié aux gens malades, en fauteuil, enfin, tous les handicapés et aux gens malades et souffrants. Et je trouve que c'est une grâce parce que quand on est passé devant le linceul, c'est vrai que c'était touchant quand même de voir, on a vu des enfants avec des perfusions, etc., dans des chaises à porteurs. Et là, tu te dis, ah oui, quand même, j'ai de la chance. Quoi. Ça fait relativiser et ça faisait penser à cette souffrance. Parce que dans le monde aujourd'hui, la souffrance, il y en a toujours. Et je pense que si on essaie de vendre un idéal sans souffrance, c'est qu'on ment quelque part à quelque chose. Et c'est vrai que c'est toujours dur, mais. Comme Padre Pio aussi, c'était un homme de souffrance, mais ce n'était pas un homme de souffrance pour souffrir, c'était un homme de souffrance pour amener Christ. Je fais bien le parallèle, hein, c'est pas de la flagellation ou se donner souffrance, hein, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste de voir ceux qui souffrent, que Jésus est passé par là, et qui nous accompagne aussi dans ça, dans cette souffrance.
Il a ouvert un hôpital qui s'appelait la Casa de
Soulagement
de la Souffrance.
Mais tu vois, si je commence à parler par les pieux, j'en ai pour 3 heures, ouais. Donc je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de ça en fait. Voilà. Donc c'est encore jusqu'au 22 juin. Vous pouvez y aller. Je veux dire, nous, on l'a fait à l'arrache, en bus.
Ah oui.
C'est 50 euros l'aller, 50 euros le retour.
De
Paris, toute la nuit en bus, arrivé le matin, et on va repartir le lendemain. Sinon, j'ai vu aussi qu'ils faisaient des trains, c'est 150 euros l'aller-retour, et vous pouvez partir le matin, quasiment rentrer le soir à Paris.
Il faut s'inscrire sur Internet.
Non, enfin, il faut s'organiser, soit enfin, si on veut le faire seul ou si on va aller le voir, quoi.
Non, mais
c'est pas ça, je veux dire, pour pas avoir la même mésaventure que vous, je peux vous inscrire là. C'est ça?
Non, alors le truc, c'est qu'effectivement, avant de prendre les réservations, il faut regarder sur Internet.
Mais il y a des idées, voilà. Comment organiser?
Non.
Tu regardes toi-même.
Quand on arrive, alors souvent les gens ils vont en groupe, parce que c'est un pèlerinage, donc ils y vont en groupe. Ensuite, il faut s'inscrire sur Internet. Et sur Internet, il y a tous les jours avec toutes les tranches horaires, et heure par heure, enfin quart d'heure par quart d'heure, ils disent si c'est plein ou pas plein. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, je sais pas, ils peuvent passer 300 personnes par quart d'heure. Et donc, évidemment, le week-end, tout est blindé. Par contre, en semaine, j'ai vu encore, il y a beaucoup de places, c'est libre la semaine. Et je voulais dire un dernier truc aussi. J'ai découvert, grâce à Eden, en allant là-bas, Don Bosco, que je connaissais pas du tout, parce que moi je vais pour le suivre. Il me dit, mais il y a Don Bosco, c'est super. Je dis, c'est qui Don Bosco? Vous savez qui est Don Bosco?
Oui,
vous connaissez? Ah, c'est bien, vous êtes meilleur que moi. Et en fait, c'est le bicentenaire de sa congrégation, qui sont les Salésiens. Et les sœurs aussi, Marie-Auxiliatrice, que j'ai compris. Et du coup, les Salésiens sont dans le monde entier et leur vocation, c'est de contribuer à l'éducation des enfants en difficulté, de venir en aide aussi aux gens dans la pauvreté, etc. Ils font un travail extraordinaire et c'est les 200 ans. C'est aussi une bénédiction d'aller là-bas. Voilà, si vous avez d'autres infos, parce que je ne suis pas spécialiste, mais voilà. Et les Italiens connaissent plus Turin pour Don Bosco que pour le Sueur aussi. C'est ça qui est assez intéressant.
Bon, merci. Voilà.
Nous allons passer à la lecture.
Ouais.
Et la première lecture à le monsieur, est-ce que vous pouvez faire la première lecture? Non? Vous pouvez?
Non, désolé. Delphine, je ne pas la première.
Oui, c'est laquelle?
Là, c'est sur
le maintenant ou après, quand c'est la maison? Non, c'est la maison. Ah oui, c'est d'accord. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même.